Chapitre 2 La Malle-Poste. C'était la route de Douvres qui, un vendredi soir de la fin de novembre, se déployait devant le premier personnage à qui notre histoire est affaire. Entre cet individu et l'horizon était la Malle-Poste, qui gravissait péniblement la côte escarpée de Shooter. Notre homme barbotait dans la boue, ainsi que les autres voyageurs. Non pas qu'en pareille circonstance la marche leur fût agréable, mais parce que les harnais étaient si pesants, la montée si rapide, la malle si lourde et la boue si épaisse, que les chevaux s'étaient arrêtés déjà 3 fois avec la pensée subversive de retourner à leur écurie. Néanmoins, l'action combinée des rênes, du fouet, du garde et du conducteur s'étant opposée, en vertu des lois de la guerre, à ce dessein, qui prouvait que les animaux sont doués de raison, l'attelage, forcé de capituler, était rentré dans le devoir. La tête baissée, la queue frémissante, les 4 chevaux enfonçaient dans la boue, se débattaient, glissaient, tombaient lourdement et menaçaient de se mettre en pièces. Toutes les fois qu'après une halte prudente, le conducteur les forçait à repartir, le cheval de devant, qui se trouvait à côté du fouet, secouait violemment la tête et semblait nier que la voiture pût jamais parvenir au sommet de la montagne. Chacune de ces bruyantes dénégations faisait tressaillir notre voyageur et lui troublait l'esprit. Un brouillard fumeux emplissait tous les bas-fonds et rampait sur la colline, ainsi qu'une âme en peine qui cherche à se reposer. Brouillard froid et gluant, qui s'élevait avec lenteur et poussait péniblement dans l'air ses vagues épaisses et fétides. La lumière projetée par les lanternes de la voiture, enfermée dans un cercle de brume, éclairait à peine quelques mètres de la route, et la vapeur qui s'élevait des chevaux en nage se confondait avec le brouillard dont ils étaient environnés. 2 autres voyageurs marchaient à côté de la voiture, enveloppés jusqu'aux sourcils et portant des bottes fortes. Aucun de ces 3 hommes, d'après ce qu'il en voyait, n'aurait pu soupçonner la figure de son voisin. Et ce qu'il pensait n'était pas moins caché à l'esprit des 2 autres que sa personne aux yeux de ses compagnons. À cette époque, on ne savait trop se défier des gens qu'on rencontrait en route. Chacun d'eux pouvait être un bandit, ou tout au moins affilié à des voleurs. Rien n'était plus ordinaire que de trouver dans chaque maison située au bord des chemins, auberge ou cabaret, depuis le maître de poste jusqu'au garçon d'écurie, quelques sacripants soldés par un mandarin quelconque. C'est à cela que pensait le garde qui accompagnait la malle de Douvres ce vendredi soir du mois de novembre 1775, tandis que, perché derrière la voiture, il battait des pieds la paille qui lui servait de tapis et avait l'œil et la main sur un coffre où un tromblon chargé jusqu'à la gueule reposait sur 8 pistolets de fonte, également chargés à balles et couchés sur un lit d'armes blanches. Comme il arrivait chaque soir, le garde suspectait les voyageurs, qui se soupçonnaient mutuellement, ainsi que le garde et le cocher, qui à son tour ne répondaient que de ses chevaux et auraient juré en conscience, sur les 2 testaments, que les pauvres bêtes n'étaient pas de force à faire une pareille corvée. « Allons, hu !» s'écria le conducteur. « Un dernier coup de collier et vous serez au bout de vos peines, damné rosse que vous êtes. J'aurais eu assez de mal à vous faire arriver. « Joey, quelle heure est-il ? » 11h10, répondit le garde. Miséricorde, s'écria le cocher avec impatience. 11h10, et pas en haut de la montagne. Psst, hu, vieille rosse! Le cheval de tête, arrêté par un violent coup de fouet au milieu de ses plus vives dénégations, fit un nouvel effort, entraîna le reste de l'attelage, et la Malle-Poste de Douvres se remit en marche, escortée des 3 voyageurs qui barbotaient dans la boue. Il s'était arrêté chaque fois que s'arrêtait la voiture, et il s'en écartait le moins possible. Celui d'entre eux qui aurait eu l'audace de proposer à son voisin d'aller un peu en avant, au milieu du brouillard et des ténèbres, se serait fait prendre pour un voleur et mis en position de recevoir une balle dans le corps. On était enfin au sommet de la montagne. Les chevaux reprenaient haleine, le garde avait quitté son siège afin d'enrayer pour la descente, et d'ouvrir la portière aux voyageurs qui allaient remonter en voiture. « Psst, Joey !» cria le cocher en regardant au bas de son siège. Et tous les 2 écoutèrent. Un cheval monte la côte au galop, Joey. » « Au grand galop, Tom, » reprit le garde en sautant sur son siège. « Gentlemen, » ajouta-t-il après avoir armé son tromblon, « au nom du roi, je réclame votre assistance. » Le voyageur qui fait partie de notre histoire allait entrer dans la voiture où les deux autres se disposaient à le suivre. Il resta sur le marchepied et ses deux compagnons, derrière lui, sur la route. Tous les trois regardaient tour à tour le garde et le conducteur. Ceux-ci tournaient la tête en arrière et le cheval, au vif des négations, dressait les oreilles en regardant derrière lui sans qu'on l'en empêchât. L'immobilité qui succédait tout à coup au roulement pénible de la malle-poste ajoutait au silence de la nuit, dont elle augmentait le calme funèbre. Le souffle haletant des chevaux communiquait une sorte de frisson à la voiture, et peut-être le cœur des trois compagnons de voyage battait-il assez fort pour qu'on pût en compter les battements. Dans tous les cas, c'était le silence d'individus hors d'haleine, qui n'osent pas respirer, et dont le pouls est précipité par l'attente. Un cheval franchissait la montagne d'un galop rapide et approchait de plus en plus. « Holà ! » cria le garde de toute la puissance de ses poumons. « Arrêtez ou je fais feu !» Il fut immédiatement obéi et du fond du brouillard, une voix enrouée s'écria. « Est-ce la malle-poste de Douvres ? Peu vous importe !» répondit le garde. « Est-ce la malle-poste de Douvres ? Qu'avez-vous besoin de le savoir ? J'ai affaire à un voyageur. « De qui voulez-vous parler ?»« De Monsieur Jarvis Lorry. » L'individu qui était sur le marchepied de la voiture fit un mouvement et sembla dire que c'était de lui qu'il s'agissait. Le cocher, le garde et les deux autres le regardèrent avec défiance. « Restez où vous êtes, ou sans cela vous êtes mort, » répondit le garde à la voix qui sortait du brouillard. « Voyageur du nom de Lorry, veuillez répondre avec franchise. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda celui-ci d'une voix douce et vibrante. « Qui a besoin de me parler ? Est-ce vous, Jerry ?»« Je n'aime pas la voix de ce Jerry, » murmura le garde entre ses dents. « Elle est plus enrouée que de raison. »« Oui, monsieur Lorry, je vous apporte une lettre de chez Tellson. »« Je connais ce messager, » dit le gentleman en s'adressant au garde et en mettant pied à terre, assisté avec plus de hâte que de politesse par les deux autres voyageurs, qui s'élancèrent dans la voiture, dont ils s'empressèrent de fermer la portière et de relever les glaces. « Vous pouvez lui permettre d'approcher, » continua M. Lorry. « Vous n'avez rien à craindre. »« C'est possible, mais tout le monde n'en est pas convaincu, » répondit le garde en se parlant à lui-même. « Holà ! Hé ! » !»« Eh bien ?» demanda Jerry, plus enroué qu'auparavant. « Écoutez-moi, avancez, mais au pas. » Et si par hasard il y a des fontes à la selle qui vous porte, n'y glissez pas la main. Je suis diablement prompt à la méprise, et quand je me trompe, mon erreur prend la forme d'une balle. Maintenant que vous êtes averti, montrez-nous votre figure. » La silhouette d'un cheval et de son cavalier se dessina vaguement à travers le brouillard et s'approcha de la malle-poste. Arrivé auprès de M. Lorry, le messager arrêta sa monture et tendit un papier au voyageur. Le cheval était hors d'haleine, et tous deux étaient couverts de boue, depuis le sabot de la bête jusqu'au chapeau du cavalier. « Garde, » reprit le voyageur avec calme, « je vous répète que vous n'avez rien à craindre. J'appartiens à la banque Tellson et compagnie. Vous devez connaître la maison Tellson de Londres. Je vais à Paris pour affaires. Ai-je le temps de lire ce billet ? Il y aura une couronne pour boire. » Cela dépend de sa longueur. Si vous ne devez pas... » M. Lorry s'approcha de la lanterne, ouvrit la lettre qu'il tenait à la main et lut à voix haute la phrase suivante. « Attendez, mademoiselle, à Douvres. » « Ce n'est pas long, comme vous voyez, » dit-il au garde. Et, s'adressant à l'émissaire, « Vous direz à la maison que je vous ai répondu par le mot « ressuscité ».»« Quelle singulière réponse !» s'écria Jerry de sa voix la plus rauque. « Portez-la néanmoins à ces messieurs, ils auront ainsi la preuve que j'ai reçu leur billet. Bonsoir, Jerry, bonsoir. Retournez là-bas le plus vite possible. » En disant ces mots, le gentleman ouvrit la portière et monta dans la voiture, sans être, cette fois, assisté par ses compagnons de voyage. Ceux-ci avaient caché d'une manière expéditive leurs bourses et leurs montres dans leurs grandes bottes, et faisait semblant d'être plongé dans le plus profond sommeil afin de se dispenser d'agir. La portière refermée, la malle-poste s'ébranla et, descendant la côte, s'enfonça dans un brouillard de plus en plus épais. Le garde, qui avait fini par remettre son tromblon à sa place, examina les pistolets qu'il portait à la ceinture et jeta un coup d'œil sur une petite caisse où étaient renfermés quelques outils de maréchal, un couple de torches, un briquet et de l'amadou. Si les lanternes de la voiture avaient été soufflées et brisées, comme il arrivait de temps à autre, il n'avait qu'à s'enfermer dans l'intérieur et à battre le briquet avec courage pour obtenir de la lumière au bout de 5 minutes, en supposant qu'il eut de la chance. « Tom !» dit le garde à voix basse par-dessus la voiture. « Qu'est-ce que c'est, Joey ? As-tu entendu ce message ?»«
Oui. »«
Qu'en penses-tu ? » »«
Rien du tout. » »«
Ni moi non plus, » répondit le garde, tout surpris de cette coïncidence d'opinion entre lui et le cocher. Une fois seul, au milieu du brouillard et des ténèbres, Jerry avait mis pied à terre, non seulement pour soulager sa bête, mais encore pour essuyer la boue qui lui couvrait le visage et pour secouer son chapeau, dont les retroussis pouvaient contenir environ 2 litres d'eau. Lorsqu'il eut terminé cette double opération, il se retourna du côté de Londres et, tenant son cheval par la bride, il se mit à descendre la montagne. « Après une pareille course, ma vieille, » dit-il à sa monture, « je ne me fierai à vos 4 jambes que lorsque nous serons en plaine. Oui, ma vieille. »
« Ressuscité ? Quelle singulière réponse !
Cela ne serait pas ton affaire.
Non, Jerry, non. Tu serais dans une fâcheuse position si la mode allait prendre de revenir ici-bas.